Réplique En Marche avec Frédéric Gros et Sylvain Tesson. Il y a quelques jours, mon assistante, Anne-Catherine Lechard, a reçu d'une auditrice attentive un courriel ainsi libellé. Je viens d'entendre l'annonce par Alain Finkielkraut de la prochaine émission. Je suis assez surprise de découvrir que celui-ci reprenne exactement le slogan d'Emmanuel Macron. Comment est-il possible que l'appartenance de certains producteurs soit si explicite ? Il est à craindre que certains milieux continuent de commettre les mêmes erreurs que celles qui ont vu arriver Donald Trump au pouvoir. J'en suis assez surpris, c'est le moins que l'on puisse dire. Je voudrais rassurer tout de suite cette auditrice et ceux qui auraient pu avoir la même réaction qu'elle. Mon titre n'est pas un engagement, une profession de foi, un acte d'allégeance politique. C'est même tout le contraire. Pour cette conversation avec Frédéric Gros, l'auteur de « Marché, une philosophie » et Sylvain Tesson, qui publie « Sur les chemins noirs », j'ai choisi de prendre la formule « En marche » au pied de la lettre. Il ne s'agit plus, par une telle injonction, d'emprunter hardiment l'autoroute de l'histoire, mais de la quitter pour les sentiers de randonnée. Il n'est plus question de répondre à l'appel du futur, mais d'oublier le progrès et de faire l'actualité buissonnière. Pour lever toute ambiguïté, je demanderai d'abord à Sylvain Tesson ce que sont les chemins noirs et ce qu'il est allé y chercher. Sylvain Tesson.
Bonjour, merci beaucoup de me permettre d'expliquer ce que je suis allé chercher sur les chemins noirs. Pour moi, les chemins noirs, c'est trois choses. D'abord, c'est une représentation graphique de l'itinéraire que l'on peut découvrir sur les cartes d'état-major. Nous avons une chance incroyable en France, c'est de disposer pour une assez modique somme de la totalité de la couverture de notre pays à l'échelle du 25 millième, c'est-à-dire un centimètre pour 250 mètres. Nous sommes les seuls en France, avec les Suisses, à posséder ce trésor. Et je dois dire que c'est une échelle qui est tout à fait bénie quand on a envie de s'enfoncer dans un territoire et de le connaître, puisque la représentation cartographique au 25 millième nous donne toutes les promesses possibles que nous pouvons espérer trouver dans une marche. Alors voilà, le chemin noir, c'est d'abord la représentation graphique de ces chemins les plus ténus, les plus minuscules, à peine plus épais qu'un cheveu que l'on trouve sur la carte. Et d'ailleurs, l'Institut géographique, dans le cartouche de légende, indique que le chemin noir, le petit chemin qui parfois est un simple pointillé, est un chemin à la praticabilité aléatoire. Je trouve cette expression tout à fait charmante. On dirait presque une définition de l'existence. Ça, c'est la représentation graphique. Le chemin noir sur le terrain, c'est le chemin embroussaillé. C'est le serpentin qui descend le long d'un versant, c'est la piste rurale, le chemin oublié, le chemin forestier, couvert de ronces, qui a été rendu d'ailleurs un bestiaire noir, un bestiaire de vipères, de renards, de chauves-souris, depuis que les paysans ont cessé d'occuper une partie du territoire. Les paysans qui étaient 10 millions à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui ne sont plus que 500 000 à nourrir les 60 millions de Français. Alors, cette déprise agricole, cet exode, cette fin des paysans, comme le disait Henri Mandras dans les années 1960, a rendu à leur ombre, à leur noirceur, un certain nombre de ces chemins, de ce réseau de piétons de la France. Ça, c'est la définition géographique. Puis ma troisième définition du chemin noir, elle est plus intérieure, elle est plus intime. C'est le chemin sur lequel on peut conduire son existence en imitant ce que l'on va chercher à pied, en marchant dans les chemins noirs de la France, c'est-à-dire en recourant aux armes de la solitude, du silence, d'une certaine forme de lenteur. Ça, c'est le chemin noir existentiel qui permet d'essayer d'échapper aux injonctions, aux impératifs de l'époque, lesquels sont cette espèce d'obligation de se soumettre toujours au brouhaha, aux commentaires de toutes choses et à la rupture avec le souvenir, le rêve et le passé.
Alors nous reviendrons tout à l'heure sur les raisons plus personnelles qui vous ont fait traverser la France du Mercantour au Cotentin. Mais d'abord, je demanderai à Frédéric Gros s'il reconnaît sa propre philosophie dans cette déprise que représente justement les chemins noirs.
Dans cette déprise, oui, dans cette déprise, j'allais presque dire dans cette déconnexion par rapport à la fois à la vitesse et aux impératifs de vitesse, c'est-à-dire toutes les technologies sont là quand même pour nous faire aller plus vite, et presque aussi par rapport à l'écran. Je veux dire, il est fou de constater à quel point on passe dans une seule journée des heures et des heures connectées, comme on dit, face à des écrans, et il me semble que ce qui se perd là, et un des secrets de la marche est sans doute là, c'est ce qui se perd, c'est la présence elle-même. Et je crois que la marche peut être comprise comme un intensificateur de la présence, où on est plus présent à soi-même, aux autres, quand on rencontre justement des promeneurs. Et c'est vrai que dans le livre de Sylvain Tesson, il y a beaucoup de rencontres qui se font comme ça au ras de l'existence, plus présent aussi au paysage, et je trouve qu'il n'y a pas tant d'occasions que ça dans lesquelles on retrouve cette présence à soi-même. Et ça, c'est quelque chose
d'assez... Mais alors, ça suppose, Frédéric Gros, que on n'emmène pas son portable en pèlerinage, randonnée.
Ouais.
Parce qu'à ce moment-là, on reste connecté, on peut regarder défiler les messages sur l'écran, voir autre chose, voir des vidéos, se brancher sur YouTube. Or, sans doute, y a-t-il aujourd'hui des marcheurs qui refuseraient de se séparer de cet instrument, de cet objet lui-même nomade, devenu indispensable. Puisqu'il est nomade, le nomade a tendance à l'emporter avec soi. Frédéric Gros.
Oui, d'autant plus que, alors ça, c'est l'avantage de la carte par rapport justement au portable où il y a maintenant des fonctions GPS, c'est que précisément avec la carte, c'est vrai qu'on se rend compte des carrefours, des invitations, alors que le GPS va vous tracer une trajectoire, on va définir un point d'arrivée et un terme, et du coup cet entrelacement de sentiers qui est tellement présent, et c'est ça même, j'allais dire, c'est presque beau poétiquement de voir une carte. C'est vrai qu'il est absent, mais de fait, vous avez tout à fait raison, on part pour de simples raisons, on se dit avec le portable pour des raisons de sécurité.
Mais oui, en plus,
cela dit,
on est repérable.
Parfois le réseau ne passe plus. Hein,
vous emportez votre portable quand vous partez pour ce genre de voyage.
Oui,
oui,
hélas,
vous devez l'avouer quand
même.
Oui,
je l'avoue. Oui.
Donc,
oui,
c'est une déconnexion relative.
C'est très relatif. Il faudrait faire ce geste qui consiste à jeter par-dessus bord ou par-dessus chemin le portable. Et c'est vrai que j'ai pas.
Oui, parce que vous dites vous-même que c'est pas simplement l'utile que l'on choisit pour partir en voyage. Il faut aller plus loin et ne choisir que l'indispensable.
Il faut l'indispensable
pour ce genre de voyage.
Et c'est vrai qu'on arrive à un point qui est celui de ce que j'appelle l'élémentaire, c'est-à-dire où on va atteindre à une espèce de couche comme ça d'immanence, à une espèce de couche de présence qui est, c'est la découverte des grands marcheurs qui est pleine d'énergie.
Et vous, Sylvain Tesson, est-ce que vous aviez emmené votre téléphone portable pour cette longue marche, cette incroyable traversée de la France?
Mais non seulement je ne l'avais pas emporté pendant ma marche, mais je n'ai pas de téléphone portable.
Ah, vous n'en avez pas?
Non,
je n'en ai pas.
Voilà. Et pourtant, nous avons...
Mais moi, j'ai pas de mérite, parce que je suis sédentaire, donc...
Oui, mais nous avons quand même réussi à nous joindre, et là, nous conversons, alors que nous n'avons pas de téléphone, donc ça prouve bien, d'ailleurs, la nécessité rapide de jeter par-dessus bord tous ces appareils pour reconquérir une forme de liberté et de présence.
Alors, maintenant, j'en viens quand même à la raison personnelle, Sylvain Tesson. Il vous est arrivé quelque chose, racontez-le, puisque vous le racontez également dans votre livre, et de cet accident est née cette décision qui a été la vôtre d'emprunter les chemins noirs et de traverser ainsi la France.
La raison personnelle est liée à un accident dont j'étais la victime, bien que je n'ai été la victime que de moi-même, puisque c'était un accident lié à des acrobaties que je pratiquais dans un état d'emboissonnement assez avancé. En quelques mots, je suis tombé d'un toit et la chute était très mauvaise. Et je suis resté plusieurs mois à l'hôpital. Je suis passé pas très loin de l'extinction générale des feux. Et j'ai eu la chance de... on a beau ne pas être véritablement enthousiasmé par son époque, on est quand même content de bénéficier de la médecine moderne. Alors j'ai été sauvé et je me suis fait une sorte de serment sur mon lit d'hôpital qui m'aidait à tenir, puisque dans ces espèces de moments terribles, de moments de noirceur, on s'accroche à des formes de défis qui vous permettent de sortir parfois de vos longs tunnels. Et mon défi, mon espoir, c'était de pouvoir me remettre en marche, c'est-à-dire de refaire quelque chose que je fais depuis maintenant près d'une vingtaine d'années, de me remettre en mouvement. Et je me suis promis de traverser la France si je m'en sortais. Alors je m'en suis sorti et j'ai été serment. Pour une fois, j'ai rempli... véritablement une promesse que je m'étais faite, parce que j'ai passé quand même ma vie à voyager en faisant des promesses que je ne tenais pas, et celle-là je l'ai tenue, et je suis parti du Mercantour et je suis allé jusqu'au Cotentin pour opérer ce que les médecins appelaient la rééducation, et à laquelle il me conviait, et elle a réussi pour deux raisons, parce qu'elle a réussi d'un pur point de vue vital, musculaire, articulaire, physiologique, enfin je ne sais pas très bien quel terme médical appliquer à cette réussite, mais les forces sont revenues en moi grâce aux bienfaits et aux bénéfices de la marche. Et puis il y a eu les bénéfices moraux, intérieurs, que la marche a pourvus. J'ai retrouvé cet appétit de la vie, j'ai senti revenir en moi une forme de gaieté du marcheur. La gaieté du marcheur, elle traverse très souvent les passages que Rousseau dans les Confessions consacre, notamment dans sa jeunesse, quand il découvre les cascades et qu'il traverse les pays de la Haute-Savoie. Et il parle sans cesse de la gaieté du pèlerin, de cette espèce de rire, de cette espèce de légèreté. Et ça, la marche me l'a donné, ce qui était évidemment très important pour moi en sortant de l'hôpital.
Et Frédéric Gros, Rousseau est l'un des philosophes marcheurs que vous convoquez dans votre livre, avec Nietzsche. Et nous en parlons peut-être même Thoreau, mais surtout Kant, qui est une position assez bizarre. Mais enfin, Rousseau est au cœur.
Rousseau est au cœur. Je pense effectivement que ça fait partie des les textes des Confessions sur la marche font partie de ceux qui percent justement cette espèce d'énigme, parce que quand on explique un peu aux gens la manière dont on marche, etc., au fond ce qu'ils voient c'est quand même des contraintes, parce que c'est aussi s'exposer aux contraintes du temps qui fait. Marcher c'est aussi s'exposer à des... Je veux dire, à des nécessités, il faut rejoindre un refuge, enfin on peut se perdre, etc. Et c'est vrai que malgré tout ça, il y a cette expérience de légèreté, et je trouve que chez Rousseau, il y a quand même cette idée que la manière dont l'horizon se déploie pour le marcheur est une perpétuelle invitation quand même à se réinventer soi-même, c'est-à-dire tout redevient possible.
Oui, et peut-être y a-t-il davantage, parce que dans vos deux livres, on voit à quel point marcher, c'est pas simplement mettre un pied devant l'autre, c'est aussi faire un pas de côté, fuir une certaine société et son effervescence. Et là, Rousseau peut nous éclairer sur le sens de cette fuite, puisque pour lui, l'histoire humaine, c'est l'expulsion funeste du paradis de l'amour de soi et l'entrée progressive dans l'enfer de l'amour propre. L'amour propre, c'est-à-dire la comparaison perpétuelle. On se compare à l'autre Et cette comparaison, elle est toujours décevante. On se dit qu'on est surpassé et on en veut même à l'autre d'être quelque chose, car dit Rousseau, on voudrait être tout. Et là, on a l'impression que même pour lui, la marche, c'est une manière d'échapper à cette espèce de morsure incessante. Et vous le dites vous-même en citant un passage magnifique des Confessions, on n'est plus l'homme de l'homme, on retrouve malgré tout quelque chose de l'homme de la nature. On retrouve l'homme naturel, c'est-à-dire le même aussi dans les rêveries du promeneur solitaire, la joie pure d'exister, quelque chose qui a rapport avec l'amour de soi, avec l'innocence de l'amour de soi. Est-ce que c'est pas ça aussi l'expérience du marcheur ?
C'est aussi ça pour une raison, j'allais dire assez simple finalement, c'est que la marche permet une fierté sans arrogance. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est qu'à force de mettre un pied devant l'autre, on finit quand même par faire des kilomètres. Et je vous assure que le fait de se retourner et de voir au loin un col, mais qui semble inatteignable, et d'avoir parcouru tous ces kilomètres avec cette fierté d'avoir à ce point fait preuve d'humilité en marchant. Je crois que c'est ça qui est l'expérience du marcheur, avec ce que vous ajoutez, c'est-à-dire cette déprise du vernis social, c'est-à-dire au fil des chemins, effectivement, quelque chose comme la comparaison, voilà, ça s'effile.
On se purifie de tout ça.
Oui, on se purifie de tout ça, on se purifie des masques sociaux, on se purifie des rôles qu'on doit jouer ici et là, et jusqu'à devenir seulement un corps qui avance.
Cette expérience est la vôtre aussi, Sylvain Tesson ?
Oui, et je crois qu'on peut ajouter à cette vertu de la modestie, même si Frédéric Gros vient de nous dire que ça peut être une modestie souveraine, une modestie qui s'emplit d'un très juste contentement, d'un effort accompli. Il y a une vertu qui s'ajoute à cette vertu de la modestie, qui est peut-être le retour à une forme de mesure du monde, de limite d'ailleurs. C'est-à-dire que la marche arriverait comme une possibilité de réparer cette rupture que la modernité, depuis les révolutions industrielles et énergétiques, a créé avec l'espace et la géographie. Au fond, nous sommes dans un déni absolu de l'espace et de l'immensité. Voilà que nous pouvons aujourd'hui, avec un baril de pétrole qui coûte $30, aller à Pékin pour des sommes assez modiques, en quelques 10 heures d'avion. À ce moment-là, des sociétés qui sont fondées anthropologiquement sur ces systèmes de circulation si rapides que vous avez appelés effrénés ou frénétiques de circulation des marchandises et des biens, ces sociétés-là ne peuvent pas vivre dans un équilibre, une harmonie et un rapport au monde sain. Ça n'est pas possible. Et voilà que le marcheur, tout à coup, par le pas de l'arpenteur, d'ailleurs, qui était un pas de géomètre, un pas de mesureur, un pas de calculateur, le marcheur revient à cette mesure. Tout d'un coup, le marcheur sait ce que c'est que faire un kilomètre. Et je voudrais simplement, pour conclure cette petite aperçu de la vertu de la mesure de la marche, vous lire trois vers de Peggy, de la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, où Peggy, cet athlète, ce coureur de fond des plaines de la Beauce, dit quelque chose sur ce phénomène de la mesure. « Nous savons ce que c'est qu'un tronçon qui s'ajoute au tronçon déjà fait, et ce qu'un kilomètre demande de jarret, et ce qu'il faut en mettre. » Voilà, on sait ce que c'est que faire un kilomètre. Or, nous sommes dans des sociétés où nous ne savons plus ce que c'est qu'un kilomètre. Et le marcheur, lui, le sait.
Je voudrais vous citer en résonance une phrase du philosophe allemand Rüdiger Safranski. « Il n'est pas d'expérience sans acheminement. » Aller trop vite quelque part, c'est être nulle part. C'est un peu aussi ce que vous disiez.
C'est être nulle part et c'est n'avoir aucune conscience ni de l'endroit où l'on va, ni de l'endroit d'où l'on vient. Car voilà. Il y a un phénomène tout à fait alchimique et mystérieux qui se produit lorsque l'on marche. C'est qu'à force d'arpenter lentement le territoire, voilà que le marcheur tout à coup sent revenir une forme de conversation avec l'histoire et avec le temps. Comme si celui qui se déplaçait lentement dans la géographie retrouvait une forme de lien, de conversation avec la temporalité, avec le passé. Lorsque nous marchons, et je suis sûr que Frédéric Gros ressent cette expérience, lorsque nous marchons dans une forêt ou lorsque nous marchons dans une montagne, nous avons le souvenir de ce qui s'est passé. Nous savons que les pierres que nous foulons sont des pierres qui ont une mémoire. C'est ce que Ségalène, dans les Odes, appelait le vent des royaumes, qui n'est pas un vent de poussière, qui n'est pas un vent qui vous gifle, qui n'est pas une rafale, mais qui est cette espèce de souffle du passé qui finit tout à coup par vous envahir, parce que vous sentez que les royaumes, les empires, les époques sont là, sous les pierres et dans la poussière. La marche, c'est aussi ça, c'est que l'on soulève l'écho des fantômes.
Oui, c'est vrai que curieusement, non, mais c'est vrai que la lenteur de la marche approfondit l'espace. C'est-à-dire que la lenteur du pas, il y a des phénomènes que j'appellerais presque d'infusion, où finalement le paysage finit par remonter à l'intérieur du marcheur, et ça produit ce que... Moi, j'avais comme repère ce que Platon, dans la septième lettre, décrit comme le dernier degré de la connaissance, qui est une certaine familiarité. Et cette familiarité qui n'est pas, si vous voulez, parce que arriver en haut d'un col, garer sa voiture et prendre possession du paysage avec son smartphone et en prendre une représentation, c'est du côté de la maîtrise, c'est du côté de la frontalité, et c'est vrai que ce rapport de coprésence par l'usure, au fond, cette familiarité qui, pour moi, définit en même temps, c'est vrai, la philosophie. La philosophie, c'est un art d'habiter et d'être familier avec des questions, mais c'est pas une science des solutions, et je trouve que cet exercice par lequel on se rend familier au paysage par la marche et par une espèce aussi de don de fatigue qu'on fait, ça produit ça, oui, ça produit, mais ça, sans aller même, je veux dire, c'est pas de la mystique non plus, encore une fois, parce que tout ça est terriblement concret, et on a une science du paysage qui est due, par exemple, à la texture même du terrain, à la manière dont le terrain peut...
Justement là, je voudrais, en écho à ce que vous dites, citer Kundera commentant Rimbaud présent également dans votre livre, Frédéric Gros, à l'égal de Nietzsche et de Rousseau ou de Thoreau, vous lui consacrez un chapitre. Deux vers de Rimbaud. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. Commentaire de Kundera. Chemin, bande de terre sur laquelle on marche à pied. La route se distingue du chemin non seulement parce qu'on la parcourt en voiture, mais en ce qu'elle est une simple ligne reliant un point à un autre. La route n'a par elle-même aucun sens, seule on en tient les deux points qu'elle relie. Le chemin est un hommage à l'espace, chaque tronçon du chemin est en lui-même doté d'un sens et nous invite à la halte. La route est une triomphale dévalorisation de l'espace, qui aujourd'hui n'est plus rien d'autre qu'une entrave au mouvement de l'homme, une perte de temps. Dans le monde des routes, un beau paysage signifie un îlot de beauté relié par une longue ligne à d'autres îlots de beauté. Dans le monde des chemins, la beauté est continue et toujours changeante. À chaque pas, elle nous dit « arrête-toi ». C'est un peu ce que vous disiez également. Vous reconnaissez aussi cette différence entre la route et le chemin, Sylvain Tesson?
Oui, c'est une définition superbe de la différence irréconciliable entre la route et le chemin, et entre l'affront souvent que la route fait au chemin, car la modernité n'a de cesse que de tenter de transformer le chemin en une route. Ça s'appelle le goudronnage des espaces. Ça s'appelle l'aménagement du territoire, d'ailleurs, qui est l'autre nom que l'on donne à la disparition du mystère. Il y a dans la route qui est une forme de saignée. D'ailleurs, on parle de l'hémorragie des voitures sur la route. Il y a une forme de disparition absolue de cette conversation que l'histoire, par ce principe d'infusion dont vous parliez à l'instant, que l'histoire finit par faire ruisseler dans la géographie et qui s'appelle le paysage. C'est ça le nom du paysage, en fait. C'est tout à coup la fécondation de la géographie par l'histoire.
Alors justement, c'est très intéressant, Sylvain Tesson, parce qu'on peut penser à vous écouter que l'un et l'autre, qu'on marche pour fuir le monde, alors que votre livre sur les chemins noirs est une réflexion mélancolique sur le devenir du monde, et notamment son devenir périurbain. Vous avez dit l'aménagement du territoire, disparition du mystère. Vous en faites brièvement l'historique à partir des années 1960, où la ville gagne du terrain avec les UP, les AC, les autoroutes qui tendent leurs tentacules, les supermarchés, la campagne qui se hérisse de silos, puis le septennat de Giscard, où le rêve pavillonnaire mouchette le territoire, la maison familiale qui se réplique à l'infini, puis la décentralisation de Gaston Defferre, avec les enseignes d'hypermarchés qui fleurissent et les petits commerces qui ferment. Et on en vient maintenant à Internet qui parachève la mue et ce qui donne à votre livre une tonalité nostalgique. Et vous assumez cette nostalgie. Or, la nostalgie aujourd'hui est très transgressive. La phrase qui met en colère aussi bien la droite que la gauche, aussi bien Nathalie Kosciusko-Morizet que Jacques Attali, aussi bien Le Point que L'Obs, c'est « c'était mieux avant ». C'est vraiment la phrase à ne jamais prononcer. Alors je ne dis pas que votre livre le dit à chaque page, pas du tout. Mais il y a une intense nostalgie pour quelque chose que vous voyez disparaître en traversant la France, en la sillonnant par ses chemins noirs.
Mais l'expression « c'était mieux avant », non seulement je l'assume, mais je ne prends aucun gant pour la proclamer haut et fort, notamment lorsque je me trouve sur les chemins noirs. C'est un endroit où on peut encore dire très haut des phrases qui fâchent. C'est peut-être aussi à ça que servent les cartes au 25e, c'est à trouver des endroits où on peut clamer haut et fort encore des vérités qui ne sont pas bonnes à dire partout. C'était mieux avant, en tout cas, en pur terme d'esthétique paysagère, les choses me semblent assez incontestables. Nous avons d'ailleurs une référence picturale, notamment les peintres qui nous ont donné quasiment une couverture totale du territoire français, ont permis de produire une forme d'archivage visuel, esthétique du pays, et nous pouvons la comparer avec ce que nous avons sous les yeux. Or, 5 décennies ont précipité une forme d'enlaidissement du territoire. Alors si on ne peut pas dire que la beauté est mieux que la laideur, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Mais moi, je fais partie de peut-être des êtres pas assez souples, pas assez formés aux nouvelles techniques visuelles, et qui considère encore que la beauté vaut mieux que la laideur. Je préfère un territoire où chaque arpent a été façonné de manière extrêmement minutieuse par ce que Fernand Braudel appelait l'extraordinaire rencontre entre l'accumulation du passé et l'extravagant morcellement du territoire. Je préfère cela à un territoire aménagé, salopé et bousillé par 5 décennies d'urbanisation, d'aménagement du territoire et d'extension des réseaux routiers, que les géographes d'ailleurs appellent le périurbain ou bien le mitage du territoire. Alors, vous parlez de la fuite. Oui, moi je n'ai absolument aucun scrupule à avouer que je cherche à fuir cette forme de laideur, et les chemins noirs, parmi les définitions que je donnais tout à l'heure, j'en ai oublié une, les chemins noirs servent à tracer une sinusoïde à travers cet archipel de la laideur, pour essayer de rejoindre des endroits qui ont été épargnés, et il y en a quelques-uns, qui ont été préservés par ces systèmes d'aménagement du territoire qui ont procédé à son enlaidissement.
Oui, moi, je
dirais la même chose, non, pas la même chose, c'est-à-dire je suis sensible aussi dans la marche à, mais c'est pas obligatoirement contradictoire. D'ailleurs, bon, pour Rimbaud, au point d'exclamation, en avant-marche, pour Soro, à l'idée que marcher, c'est toujours marcher vers l'ouest, c'est toujours marcher vers le matin, c'est-à-dire c'est quand même marcher vers ce qu'il appelle le sauvage, qui sont des réserves d'avenir aussi. Je veux dire par là, mais je pense que le livre des chemins noirs porte ça aussi, c'est-à-dire la manière dont la marche est une invitation à se réinventer, et pas forcément à retrouver une origine perdue, mais à retrouver des forces qui sont aussi des forces d'avenir, des forces du futur, mais pas ce futur moderne en tant qu'il est déjà écrit. Justement, je veux dire, les vrais possibles, c'est ceux qui ne sont pas dessinés. Et je trouve, parce que assez vite, on va faire à cet éloge, je trouve, à cet éloge de la marche, ce reproche, parce que vous l'avez dit, c'est comme ça que ça passe, comme un reproche de ringardise, de conservatisme, de espèce de retour prémoderne complètement réactionnaire. Voilà, on va considérer que c'est de l'ordre du réactionnaire, alors qu'il me semble que dans la marche, on est à un point d'indécision où finalement revenir est aussi une manière de rebondir. Je veux dire par là que pour se réinventer, il faut aussi revenir vers soi et puis se dépasser. Voilà.
Oui, mais qu'est-ce qui est possible? Et c'est une question que je vous pose à tous deux. À l'âge des flux, pour reprendre votre terme, ou encore concept que vous empruntez à Agamben lui-même, très influencé, je crois, par Heidegger, à l'âge du dispositif. Ce dispositif qui nous en sert, ces flux qui nous emportent, la marche, c'est une protestation silencieuse de l'individu. Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Et peut-on empêcher les flux de suivre, enfin de se déchaîner, et le dispositif de se déployer?
On peut considérer que la marche a une dimension politique, enfin en tout cas d'expression, de refus. On peut considérer que le recours à une forme de progression lente, solitaire et silencieuse vient apporter une critique absolue à une époque de massification, de collectivisation des comportements et des réflexes, de brouhaha institué et généralisé. Oui, bien sûr que la marche apporte une critique à tout ce déploiement effroyable qui s'appelle l'époque vers laquelle nous allons. Cela dit, il faut tout de suite corriger ça en considérant que la portée de ce genre de critique est tout à fait nulle. C'est-à-dire que voilà le marcheur avec son chapeau à plumes, son livre de poésie sous le bras et son bâton de bois pour s'appuyer, que pèsera-t-il devant les flux? Moi j'ai donné une expression de l'âge du flux au moment que nous vivons actuellement. Vous savez, les historiens donnent ces découpes, les périodes de la préhistoire en âge du bronze, âge de pierre, et nous pourrions parler aujourd'hui d'un âge du flux, d'un âge de la circulation absolue. Tout transite, tout passe, tout coule, tout s'écoule, comme disait Héraclite. Tout circule également. Et le marcheur, lui, d'une certaine manière, même s'il est en mouvement, il retient cette circulation, puisqu'il va lentement. Chaque kilomètre, comme disait Peggy, lui demande beaucoup de jarrets. C'est donc une circulation qui n'est pas gratuite. C'est une circulation où il initie une conversation avec le temps qui passe, avec le temps qui est passé, avec l'histoire, avec le paysage. Il n'est donc pas dans une circulation aveugle. Il ne se déplace pas comme un conteneur. Mais sa protestation, bien entendu, ne sert à rien. L'autre réponse à cette circulation frénétique, à cette espèce de valse-musette que dansent sur la surface de la terre aujourd'hui les biens, les marchandises et les personnes, l'autre réponse...
Valse-musette est peut-être un trop beau mot.
Oui, la valse-musette est peut-être un beau mot. Non, cette espèce de rock épileptique.
Voilà, ça me paraît plus approprié.
C'est moins gracieux, oui. Mais c'est plus approprié. L'autre réponse, c'est évidemment, soudain, la halte. Et la halte marquée, c'est la ruralité. C'est cela que moi, j'essayais de rencontrer dans cette diagonale de la France. C'était ces quelques préservations de la ruralité, c'est-à-dire tout à coup un arrêt, une immobilité dans un espace et une tentative de connaître le monde à travers la petite lorgnette d'une parcelle que l'on exploite, que l'on fait fructifier, enfin ça s'appelle la paysannerie d'ailleurs, c'est de la très très vieille idée de Xénophon, qui dans son économique explique qu'avant de prétendre conduire les hommes et les empires, il faut d'abord savoir s'occuper de son jardin. C'est une idée tout à fait banale et ordinaire, mais quand on en discute avec un paysan qui n'a de préoccupation que pour les saisons qui passent et pour ses arbres fruitiers, on assiste là finalement à la conversation d'un homme qui en sait beaucoup plus que ceux qui se prétendent savants parce qu'ils savent tout des épisodes des primaires américaines.
Frédéric Gros, pour vous pousser dans votre chemin et aller dans le sens de ce que vient de dire Sylvain Tesson, je voudrais citer cette phrase de Valéry. « Quoique rien ne soit plus ordinaire, toutefois, il ne fut jamais plus raisonnable de gémir sur ce qui n'est plus. »
Mais je reviens là-dessus pour dire que je reprends l'expression que vous avez utilisée au début, qui consistait à dire « faire un pas de côté ». Marcher, faire un pas de côté, ça ne veut pas dire faire un pas en arrière, ça ne veut pas dire faire un pas en retour, ça veut dire que ce simple mouvement par lequel on se déporte en dehors des flux permet aussi, bah oui, de tracer peut-être de nouvelles lignes, de tracer des lignes critiques. Et bon, beaucoup de gens l'ont remarqué avec moi, mais c'est vrai que Thoreau, qui a écrit un premier texte sur la marche, j'allais dire consistant, en faisant le propre, enfin le contenu d'une conférence, et aussi celui qui parle, même s'il a jamais employé le terme, de désobéissance civile, qui a écrit ce texte. Donc c'est vrai qu'il y a dans cette marche une dimension d'à côté, et le fait même d'être à côté joue immédiatement comme désobéissance, joue comme rupture, joue comme déconnexion, etc. C'est vrai que c'est vrai que la marche n'est pas moderne. Après, il faut pas oublier non plus que la marche a représenté pendant des millénaires un marqueur social très fort, et que je veux dire, on a marché aussi pendant des millénaires parce qu'on n'avait pas d'argent, parce que effectivement, c'est vrai que cette exaltation de la vitesse, je trouve que ce qui est étonnant et provocateur, c'est qu'on puisse aujourd'hui retrouver ces vertus réelles de la marche, alors même qu'elle a pu représenter une espèce de damnation pour des générations, si vous voulez.
Alors là, je voudrais vous soumettre, et peut-être soumettre à votre sagacité critique, une réflexion de Régis Debray, en écho à ce que vous venez de dire, Frédéric Gros. Ce qu'il appelle l'effet jogging. Est-ce que vous reconnaissez votre pratique de la marche dans l'effet jogging? J'imagine que non, mais c'est très intéressant. Il dit que à chaque bond en avant dans l'outillage, donc aussi dans le dispositif technique, à chaque accélération des flux, eh bien, correspond un bond en arrière dans les mentalités, hypothèse du progrès rétrograde auquel peut s'attacher le nom plaisant, écrit Debray, d'effet jogging. Au début du siècle, certains visionnaires avaient pronostiqué que l'usage immodéré de l'automobile par les citadins provoquerait bientôt l'atrophie de leurs membres inférieurs, le bipède motorisé se désaccoutumant de la marche. Qu'a-t-on vu depuis? Ceci, depuis que les citadins ne marchent plus, ils courent fanatiquement dans les parcs ou à défaut en salle sur tapis roulant. Mais certains marchent aussi de la même manière, puisqu'on vous dit qu'il faut faire 10 000 pas, 6 à 10 000 pas par jour, que vous pouvez le contrôler sur votre montre. Et on trouve beaucoup de marcheurs de ce type dans les rues de Paris aujourd'hui. Quel rapport avec votre expérience, Sylvain Tesson?
Moi, je trouve que, enfin, malgré tout le respect que je voue à Régis Debray et à sa pensée, je voudrais tout de même lui rappeler qu'il a beaucoup marché lui-même dans les maquis, et que le guerrier rose est en marche lui aussi parfois, avec son fusil à la main à travers la jungle. Et il sait très bien qu'il ne se livre pas là à un jogging. Il y a parfois tout de même un usage de la marche, un usage du monde par la marche. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître tout de même les vertus vitales de la marche. Je crois même que, au fond, finalement, n'est-ce pas la marche qui est notre propre? Enfin, si on se réfléchit au propre de l'homme, notre squelette, notre corps, la position de notre cortex au bout de la colonne vertébrale, la disposition de nos hanches, la largeur de notre voûte plantaire, enfin, tout ce qui nous ramène à cet exercice de la marche nous ramène aussi à quelque chose qui est un peu oublié, enfin, qu'on a beaucoup tendance à oublier dans nos vies urbaines, et qui est le rapport au corps. Il y a peut-être une forme de renouement avec ce que nous sommes physiquement lorsque nous choisissons de marcher et de courir. Il est même probable que nos cellules biologiques se souviennent qu'en une époque pas si lointaine, où nous avancions libres et menacés dans les savanes paléolithiques, nous étions capables de marcher pendant bien des jours sans nous nourrir. Et lorsque, alors moi ça m'est arrivé parfois, de faire des très longues étapes de 24 heures sans arrêt, ou même de plusieurs jours sans me nourrir, et je sentais très bien que le corps avait dépassé la fatigue et était dans une forme tout à fait inusable d'avancer. La marche provoque parfois ce souvenir-là, et il me semble que c'est davantage une jouissance qu'une occasion de déplorer l'effet de jogging. J'ajoute pour conclure une chose.
Il ne fait pas l'effet de jogging, il s'en amuse. Hein.
Oui, bien sûr qu'il s'en amuse, mais il y a quelque chose dans l'effet de jogging qu'il ne faut pas, à mon avis, négliger, qui est une forme de... On pourrait presque faire une sorte de transposition des principes de la thermodynamique à la marche ou au jogging. La marche est souvent, l'effort prolongé est souvent une manière de provoquer l'émergence, le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas la clarification des idées.
Ah.
C'est d'ailleurs, c'est ça la thermodynamique, on met une machine en marche, le mouvement s'effectue, il y a une surchauffe des pièces, ça s'appelle la surchauffe du corps, et puis il y a de la fumée qui est produite, ça pourrait être les idées, la fumée.
Ah, c'est très intéressant parce que c'est un des thèmes de votre livre, Frédéric Gros, Marcher une philosophie, l'importance de la marche pour quelques grands penseurs. Et au premier chef, Nietzsche. Nietzsche ne pouvait pas penser assis. Et d'ailleurs, vous ouvrez le chapitre que vous lui consacrez par une citation bien sentie. « Demeurez le moins possible assis, ne prêtez foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient été aussi de la fête. Tout préjugé vient des entrailles, être cul de plomb, je le répète, c'est le vrai péché contre l'esprit. » Frédéric Gros.
Oui, c'est vrai que ce que j'ai trouvé chez Nietzsche, ce que j'ai trouvé aussi d'ailleurs aussi bien chez Rousseau, c'est l'idée de faire de la marche non pas le moment où on va se reposer de l'exercice de la pensée et au fond en faire quelque chose comme un délassement parce que après avoir passé des heures tassées sur sa chaise et environnées de livres, voilà, il faut prendre l'air comme on dit. Mais c'est vrai que ces auteurs-là font de la marche l'élément même de la pensée, c'est-à-dire pas un moment où on se repose d'avoir pensé, mais ce par quoi on pense. Et c'est vrai que cet exercice même de la déambulation, la marche clarifie les pensées.
Alors c'est intéressant que vous disiez ça, vous, Frédéric Gros, parce qu'on vous connaît comme foucauldien. Vous avez publié en Pléiade les œuvres de Foucault, vous avez écrit sur Foucault. Et Foucault, je n'oserais pas dire que c'était un cul de plomb, mais l'image que nous avons tous, c'est Foucault à la Bibliothèque nationale, rue Richelieu, sous la lampe, ou Foucault à la Bibliothèque du Sauchoir pour ses derniers livres, pour son histoire de la sexualité. Et c'était un homme d'érudition. D'érudition et d'engagement, d'ailleurs, alors que la marche nous dégage et vous dites que Nietzsche n'aime pas ceux qui font un livre avec d'autres livres, en comparant des lignes avec d'autres, en répétant ce que les autres ont dit, ce que d'autres encore auraient bien raconté. Foucault a donné même une certaine noblesse à l'érudition. Il en a fait, ici ou là, un éloge quasi poétique. Donc
oui, mais je suis pas foucauldien jusqu'à ce point-là.
C'est-à-dire non, mais on peut être ouais. un sédentaire qui pense.
Oui, on peut être un sédentaire qui pense. Mais c'est ce que Nietzsche allait chercher dans la marche, c'est cette espèce de mouvement et de grand vent par lequel l'érudition, j'allais dire, est balayée. avec l'idée qu'il ne va jamais rester que l'essentiel, que ce qui traverse cette épreuve de la marche, et, j'allais presque dire l'inspiration, mais au sens où, mais je crois que c'était pas le problème de Foucault, au sens où marcher nous rend disponibles à nous-mêmes et nous rend disponibles à la puissance même de penser. À la puissance même de penser, et à partir de là, c'est vrai que des idées viennent en marchant, et Nietzsche avait des carnets, et régulièrement cette forme aphoristique est plus le produit justement d'une pratique d'écriture en marchant qu'un éloge postmoderne de la fragmentation, pour aller vite. C'est vrai que c'était...
Alors, je dois, à ce point de mission, avouer que je ne suis pas un bon marcheur. Vous faites une très belle distinction, Frédéric Gros, entre la monotonie de la marche et l'ennui. Malheureusement, et c'est mon insuffisance, cette monotonie m'ennuie. Alors j'ai longtemps fait, et j'espère pouvoir continuer, du vélo en vacances. Et il est vrai que j'ai peut-être une expérience de ce type, parce que quand j'ai réfléchi à quelque chose et que j'ai des problèmes, j'emporte avec moi ces problèmes sur mon vélo, et notamment des phrases qui ne viennent pas, des phrases que je n'arrive pas à faire. Et souvent le vélo, l'effort à vélo me permet de venir à bout de ces difficultés, et je reviens avec les phrases que je m'empresse à ce moment-là, parce que je peux pas les noter, évidemment, quand je pédale, mais je m'empresse d'ouvrir mon cahier et de noter ces phrases. Mais Sylvain Tesson, je reviens à votre expérience dans ce cas-là de spécifique. Vous êtes, et tout le monde, beaucoup de gens le savent, parce que beaucoup de gens vous ont lu, notamment dans les forêts de Sibérie, vous êtes un très grand voyageur. Vous êtes allé loin, extrêmement loin, avec un courage, une intrépidité absolument fascinante. Et là, vous êtes resté en France et vous avez cette phrase qui m'a beaucoup ému. Je trouvais désinvolte d'avoir couru le monde en négligeant le trésor des proximités. Une phrase où je retrouve Nietzsche. Nous devons redevenir de bons voisins des choses les plus proches. C'est un peu ce qui vous est arrivé, Sylvain Tesson.
Oui, bien sûr. C'est tout de même un penchant, d'ailleurs assez ordinaire, qui concerne un grand nombre d'entre nous, que de négliger ce qui est dans notre proximité immédiate, dans notre voisinage. Qui a dit qu'on reconnaissait le bonheur au bruit qu'il faisait en partant ou en claquant la porte? Enfin voilà, nous vivons dans un état de bonheur et puis tout à coup nous apercevons qu'il était là alors que nous allions le chercher ailleurs. C'est un peu le propre du voyageur, et ça a été probablement un peu cette frénésie, ces sirènes auxquelles j'ai cédé pendant un moment avant d'être contraint par les circonstances d'aller voir un peu plus dans mon jardin, car jusqu'ici je vivais dans une forme de mépris de mon corps, de ma santé, et de temps en temps des grincements que je pouvais entendre dans mon squelette. Je me disais que l'intendance suivrait, comme disait Napoléon. Moi, je pensais que la santé suivrait toujours. Puis quand tout à coup les circonstances vous commandent de ralentir un peu la machine, j'étais obligé de m'intéresser davantage à l'Indre-et-Loire qu'à la Sibérie orientale.
Ce qui veut dire que vous voyagerez moins maintenant?
Ce qui veut dire que je ralentirai un peu la machine et que je me pencherai peut-être un peu moins sur les atlas. Ou en tout cas, je considérerai qu'il y a des territoires... Enfin, c'est-à-dire que je commencerai à considérer qu'il n'y a pas de rapport proportionnel entre la valeur et l'intensité de ce qu'on peut découvrir et la distance que l'on met entre l'endroit où l'on est né et l'endroit que l'on va visiter.
Alors Frédéric Gros... Nous avons parlé de Thoreau, de Rimbaud, nous avons parlé de Nietzsche, et de Rousseau. Mais il y a un autre auteur qui figure, je l'ai dit tout à l'heure, à ma grande surprise dans votre livre, et j'aimerais que vous en disiez quelques mots, parce que c'est un marcheur très éloigné des expériences que vous nous décrivez l'un et l'autre, c'est Kant. Pourquoi Kant? Et qu'a-t-il à nous apprendre sur la déambulation?
Alors, au départ, j'ai traité Kant et la promenade kantienne dans le parc de Königsberg avec avec une certaine désinvolture aussi et un certain mépris injustifié. Et j'ai voulu rendre justice à ce qui peut être assez facilement moqué chez Kant, c'est-à-dire cet aspect au fond très très automatique, très très discipliné et disciplinaire. Et j'y ai trouvé aussi une certaine, j'allais dire une certaine force et une certaine beauté, c'est-à-dire cette tension et cette exigence par laquelle tous les jours, j'allais dire, on s'impose, mais jusqu'à quel point est-ce que la discipline de soi-même est faite d'imposition ? J'en sais rien. C'est pas non plus extérieur. C'est vrai que cette promenade que fait Kant tous les jours vers 5 heures en pratiquant à peu près toujours le même chemin.
Il n'en a altéré le cours que deux fois.
Oui, que deux
pour
fois.
Pour se procurer l'Émile de Rousseau et pour prendre des nouvelles de la Révolution française.
Oui, c'était deux événements. Mais cette régularité, c'est vrai, m'a impressionné, mais j'allais dire par contraste et parce que j'en suis incapable. Et parce qu'à un moment, je me suis dit, finalement, les grandes œuvres s'écrivent aussi comme ça. C'est-à-dire s'écrivent avec cette constance, cette régularité, cette fidélité à soi, et je trouvais qu'on allait un peu vite en disant que c'était juste de la, même si j'ai pu le dire ici et là, de la promenade hygiénique, et que, si vous voulez, je pense que par rapport, mettons, aux grandes marches ascendantes de Nietzsche, qui sont beaucoup plus exaltantes, parce qu'il s'agit effectivement, dans les montagnes de Suisse, de se prendre des vents frais en pleine figure, je trouve que cette régularité doit impressionner aussi quand elle est poursuivie à ce point sur tant d'années. Je veux dire, chapeau, quoi.
Bon, bah, très bien. De Nietzsche à Kant, de Sylvain Tesson à Frédéric Roux, nous avons parcouru tout l'éventail. Alors, je voudrais rappeler les titres de vos livres. Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Le livre est publié chez Gallimard. Frédéric Roux, Marcher une philosophie, qui est disponible aujourd'hui dans la collection Champs. Et puis, vous venez de publier, cette fois-ci aux éditions Albin Michel, un roman, Frédéric Roux, Possédé, qui porte sur les possédés de Loudun, cette affaire qui a éclaté en 1632, autour d'Urbain Grandier, le curé de la ville. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pour toujours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.